Je crois que c'est important d'y revenir, étant donné l'évolution que prend actuellement le cuménisme, évolution qui n'est pas du tout encourageante. Alors, nous avions vu la dernière fois l'étude du professeur Fouillou, qui était une analyse socio-historique des différences entre les comportements des catholiques et des protestants. Et maintenant, nous allons voir deux conférences, celle d'André Birmelet et de l'abbé Cesbouet. Comment ? Birmelet. C'est comme ça se prononce. André Birmelet. Birmelet. Et Cesbouet, comme ça se prononce également, qui ont fait une analyse d'un point de vue protestant, puis d'un point de vue catholique, de la situation du cuménisme. Alors André Birmelet traitait de nos différences ecclésiales et de leur enjeu dans la recherche de l'unité, qui était le thème général de la session. Nos différences ecclésiales et leur enjeu dans la recherche de l'unité. Alors, la première remarque qu'il a faite, c'était qu'il était assez étrange de trouver un tel thème proposé lors d'une rencontre de l'unité. Parce qu'il semblait tout de même que c'était beaucoup plus un thème assez anti-œcuménique que celui qui était alors proposé. En fait, la partie catholique a nuancé la chose en disant que ceux qui avaient travaillé pour proposer ce thème avaient pensé que le Saint-Esprit n'était pas seulement le facteur de l'unité de l'Église, mais qu'il était aussi le facteur de la diversité de l'Église. Et que c'était sur cet aspect de la diversité, dans l'unité, qu'il voulait insister. Alors, il s'agissait de préciser qu'il existe dans l'Église des différences qui sont légitimes, et qu'il s'agit de faire une différence entre division et différence légitime. Pour le grand public, l'œcuménisme est arrivé. Il n'y a plus de différence aujourd'hui entre les églises. En fait, on en est encore très loin, précisait le professeur Birmelet, et il ne faut surtout pas confondre l'unité avec l'uniformité. Bien sûr, là, c'est un protestant qui parle, et on sent très très nettement qu'on aborde ce problème d'un point de vue protestant. Alors, l'unité ne peut pas se faire, disait le professeur, par l'abandon de l'identité ecclésiale. Mais il faut prendre conscience que unité et différence sont des notions complémentaires. Mais également que unité et uniformité s'excluent totalement. Alors, le premier point qu'il a abordé après cette introduction, c'était cette première notion qu'il venait de dégager d'unité et différence. L'Église doit être, l'Église universelle, doit être une dans sa diversité. Tel est le plan de Dieu, et c'est ainsi que les choses apparaissent dans le Nouveau Testament. L'Église de Jérusalem n'est pas la même que l'Église d'Antioche, l'Église d'Antioche n'est pas la même que celle de Corinthe, et pourtant, il existe entre elles une profonde unité. Maintenant, après avoir dit cela, il est évident que toute différence n'est pas bonne. Il existe des différences légitimes qui ne portent pas atteinte à l'unité, et il existe aussi des différences qui sont séparatrices, qui, elles, portent atteinte à l'unité. Et c'est ainsi que, en particulier dans le Nouveau Testament, nous voyons Paul et les autres apôtres, tels Pierre ou Jude, s'élever contre ceux, justement, qui sont des fauteurs de désunion, parce que, justement, ils prônent des différences qui ne sont pas acceptables, des différences qui ne sont pas légitimes. Alors, si l'on veut transposer cette notion dans l'Église moderne, disait le professeur Birmelet, il faut se rendre compte qu'il existe des différences qui ne sont pas légitimes, des différences qui sont séparatrices. Par exemple, disait-il, il existe de telles différences séparatrices avec les témoins de Jéhovah. Il existe des différences séparatrices avec la secte de Moon. Il est certain que ces différences-là ne peuvent en aucun cas être considérées comme légitimes. Alors aujourd'hui, entre les différentes églises catholiques et protestantes, il existe des différences. Ça, tout le monde en est bien conscient. Le problème, disait le professeur Birmelet, c'est que ces différences ont été jugées par nos pères comme des différences séparatrices. Et l'enjeu, justement, de nos différences ecclésiales aujourd'hui, c'est que ces différences jugées hier séparatrices soient transformées jusqu'à devenir des différences légitimes. Alors, ces différences qui autrefois étaient séparatrices deviendront maintenant, au contraire, l'expression de la diversité et de la richesse de l'Église. Encore une fois, il faut souligner ici que nous sommes à fond dans une vision protestante. Il est évident que si les catholiques acceptaient cette vision de l'Église, eh bien, ils ne seraient plus catholiques. Ils seraient une Église protestante parmi d'autres. Bien que pour eux, cette définition-là, en fin de compte, était inacceptable. Donc, disait le professeur Birmelet, ce qu'il faut, c'est changer la nature de nos différences. D'abord, ne pas se résigner à ces différences-là. Et là, ça fait passer mon commentaire, nous trouvons sous-jacent la démarche qui est celle du BEM. La démarche du BEM, c'est de s'attacher justement à des différences qui sont séparatrices, sans se résigner à ce qu'elles soient séparatrices, pour tenter de les transformer en des différences qui deviennent différences légitimes, tout en essayant de dégager ce qui pourrait être l'objet d'un consensus. Alors cette démarche qui est proposée par le professeur Birmelet est non seulement une démarche protestante, mais elle est aussi une démarche qui n'est pas sans danger, en fin de compte. Parce que qu'il y ait des différences qui sont légitimes, c'est un fait, c'est certain. Mais là où les différences ne sont plus légitimes, c'est lorsqu'elles mettent en cause la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu. Mais revenons à la conférence de notre professeur Birmelet, qui est professeur de dogmatique à la faculté de théologie de Strasbourg, et qui disait, bien voilà, quels sont les points qui sont facteurs d'unité entre les églises et sur lesquels il n'est pas possible de transiger. Sur lesquels, s'il y avait différence, ces différences seraient séparatrices et non pas différences légitimes. Alors là, il se plaçait à fond dans la théologie protestante, perspective de la théologie protestante. Le point central pour le protestantisme qui constitue l'Église, c'est la prédication de la parole, la prédication juste de la parole, et la célébration des sacrements qui y sont attachés, le baptême et la Sainte Cène. À partir de là, si une église, quelle qu'elle soit, prêche droitement la parole de Dieu et célèbre les sacrements de la Sainte Cène et du baptême d'une manière juste et droite, il y a véritablement Église de Jésus-Christ. Et les questions d'ecclésiologie, c'est-à-dire d'organisation de l'Église, de structure de l'Église, deviennent alors secondaires. Et s'il y a des différences sur ces questions d'organisation de l'Église, Elles deviennent alors différences légitimes. Ça, c'est typique entre les églises protestantes. C'est le pacte fédératif de la fédération protestante, par exemple. Alors, le professeur Birmelet le soulignait en disant que les accords luthéro-réformés, puisque lui est luthérien, qui ont amené au XXe siècle un rapprochement entre ces deux familles du protestantisme, partent de cette constatation-là. Au niveau de la fédération protestante, le consensus minimum, c'est l'intercommunion. Sur le baptême, on ne va pas se mettre d'accord, bien sûr, pour des raisons évidentes. Mais en tout cas, la possibilité de prendre le même pain et le même vin. C'est cela qui, au sein de la fédération protestante, est constitutif de l'unité. L'unité qui unit ensemble les différentes familles qui sont rassemblées. Alors, le professeur Birmelet, partant justement de ces accords luthéro-réformés qu'il a analysés longuement, précisait que ces accords ne disaient pas que les pères s'étaient trompés, mais qu'il y avait une reconnaissance mutuelle, une reconnaissance que les différences étaient maintenant des différences légitimes. Jusqu'à cette limite, encore une fois, de la prédication et des sacrements. Sur ces deux points-là, il y avait consensus, et disait le professeur Birmelet, il doit y avoir consensus. Une différence ne peut être considérée comme séparatrice que si elle remet en question la prédication et les sacrements. Et les sacrements, une fois, c'est le baptême et la Sainte-Cène dans une perspective luthéro-réformée. Maintenant, ce consensus ne comporte aucune référence ecclésiologique. Et une vision ecclésiologique commune n'est pas nécessaire pour qu'il y ait unité, pas plus qu'il y ait une vision commune des ministères. Alors, vous voyez bien que là, c'est quelque chose qui n'est pas du tout acceptable pour les catholiques, d'une part, et qui ne l'est pas non plus pour les orthodoxes, pour lesquels l'ecclésiologie est quelque chose d'important. Pour les catholiques, la structure de l'Église est constitutive de l'Église. L'Église étant le corps de Christ, sa structure, pensent-ils, disent-ils, est donnée par Dieu. Quant au ministère, il est constitutif également pour toute l'Église. Le protestantisme, sans nier l'importance de l'ecclésiologie et l'importance du ministère qui s'y rattache, considère qu'il s'agit là... considère que ce sont des données secondes par rapport aux questions essentielles qui sont la parole de Dieu et les sacrements. Il y a, paraît-il, des accords de ce type entre anglicans et luthériens aux États-Unis. Bien sûr, les catholiques, eux, insistent sur le fait qu'une unité inclut obligatoirement une compréhension commune de ce qu'est l'Église. Et s'il existe une différence sur la compréhension de ce qu'est l'Église, pour Rome, une telle différence est considérée comme séparatrice. Et c'est ainsi, par exemple, que la divergence qui existe entre l'Église de Rome et les Églises issues de la Réforme en ce qui concerne, par exemple, le ministère, en ce qui concerne ce que les catholiques appellent le sacrement de l'ordre, d'un point de vue catholique, empêche la communion ecclésiale. D'un point de vue catholique, empêche la participation au même pain, ne parlons pas du même vin, puisque la plupart du temps, ils n'en prennent pas. Par conséquent, entre catholiques et protestants, on constate que l'on n'est pas d'accord sur ce qui est différence légitime, et sur ce qui est différence séparatrice. Les protestants disent les différences sont légitimes aussi longtemps qu'elles ne remettent pas en question la prédication et le baptême et la Sainte Cène. Par contre, les catholiques disent les différences ne sont pas légitimes si elles remettent en question la structure de l'Église. Entre parenthèses, vous voyez que nous autres évangéliques, on est un petit peu en porte-à-faux dans tout ce débat. Parce qu'il y a un point sur lequel nous ne pouvons pas, en tout cas, nous transiger, c'est la question du baptême. Et, bien sûr, à partir du moment où nous divergeons sur le baptême avec les catholiques, c'est une différence séparatrice. Ils l'ont rappelé avec force, encore dans notre dernière rencontre mensuelle œcuménique, au travers du document des évêques de France, qui soulignait que s'il n'y a pas accord sur la question du baptême, eh bien, la communion et même la poursuite du dialogue œcuménique est compromise par cette non-reconnaissance du baptême. Maintenant, avec les églises protestantes pédobaptistes, c'est-à-dire qui pratiquent le baptême des enfants, il est certain que le porte-à-faux existe aussi, moins souligné peut-être, mais il n'en existe pas moins. Si bien que tout ce débat est un petit peu délicat, si vous voulez, pour nous. Bien que ce qui est tout à fait intéressant, c'est cette notion de différence légitime et de différence séparatrice. Pour nous, la question, à la limite, nous considérerions la question du baptême, que quelqu'un pratique le baptême des enfants, par exemple, mais qu'il ait une foi authentique, une piété authentique, une conversion authentique, une rencontre authentique avec Jésus-Christ, eh bien, nous accepterions, bien sûr, d'avoir communion avec ce frère. Nous accepterions ce frère à la Sainte Cène, c'est évident. Nous accepterions même qu'il participe à nos cultes et à nos réunions. Donc ce ne serait pas vraiment pour nous une différence séparatrice, aussi longtemps qu'on ne nous impose pas de reconnaître comme légitime le baptême des enfants que nous ne pouvons pas considérer comme un baptême. Et c'est là le nœud du problème. C'est que les pédobaptistes, qu'ils soient catholiques ou protestants, voudraient nous faire admettre que ce qu'ils font, ce qu'ils pratiquent, est aussi un baptême, une autre forme de baptême. Et qu'il y a là quelque chose de légitime. Nous disons non, ce n'est pas un baptême. Même si ça peut être légitime dans ce sens qu'il est légitime de demander une bénédiction et la grâce de Dieu sur un enfant. Mais que cette cérémonie ait lieu est une chose, mais ça ne peut en aucune manière être considéré comme un baptême. Alors là, il y a une différence qui, pour nous, est une différence séparatrice. Alors,
au niveau du ministère aussi, comment on se situe? On est un petit peu dans, plus ou moins pour ta faute des deux côtés, non?
Parce que, c'est-à-dire qu'une non-reconnaissance des ministères n'est pas pour nous une différence séparatrice. Dans ce sens qu'à ce moment-là, on pourrait avoir de contact pratiquement avec personne, parce que la structure juridique des ministères n'existe pratiquement dans aucune église. Mais c'est toujours l'autre partie qui considère qu'à partir du moment où veut nous faire reconnaître que cette structure des ministères est la structure biblique, eh bien pose une différence qui devient séparatrice pour nous. Car on dit, bien non, là on ne peut pas admettre que ce soit légitime. Admettons que ce soit une différence qui, parce qu'elle est une différence d'un ordre secondaire qui ne touche pas à l'essentiel de la foi, eh bien peut être considérée comme, pour nous, comme acceptable, mais de là à dire qu'elle est légitime, non. Nous ferions une différence entre différence légitime et différence acceptable. Il y a des différences parce qu'elles ne touchent pas à l'essentiel de la foi, peuvent être considérées comme acceptables dans une perspective dynamique d'une redécouverte de la parole de Dieu, etc. Mais en tout cas, en aucun cas, ça peut être considéré comme légitime. Et à partir du moment où les églises en question se crispent sur ces points de doctrine-là, en faisant des conditions sine qua non, nous obligeant à reconnaître leur validité et leur légitimité, eh bien c'est là justement qu'ils introduisent des différences qui, par rapport à nous, sont séparatrices. C'est le cas de l'Église catholique sur la question du baptême, c'est le cas de l'Église catholique sur la question des ministères, bien entendu, c'est eux qui posent à ce moment-là la différence séparatrice par rapport à nous. Et éventuellement, quand un Montsara déclare qu'il ne peut pas admettre que l'on on prêche aux gens que ceux qui ne se repentent pas seront perdus, et là, automatiquement, il y a une différence séparatrice par rapport à nous, c'est sûr. Alors, ici, le gros problème actuellement dans le dialogue entre catholiques et protestants, c'est la place qu'on accorde aux données ecclésiologiques. Voilà où est aujourd'hui le point de cristallisation de la différence. Pour la réforme, un accord sur la doctrine suffirait, la doctrine, la parole de Dieu suffirait, à la limite, pour un rapprochement entre les églises, mais pour les catholiques et les orthodoxes, ce serait insuffisant. Voilà en gros où actuellement, où est le nœud du problème, où ça coince. C'est là que ça coince. Et c'est pourquoi aujourd'hui l'œcuménisme est en crise. Il est en crise parce qu'il se bute sur cette question-là, justement, de l'ecclésiologie. Et c'est là précisément qu'il faut faire un essai de localiser les différences. Alors le professeur Benoît s'est attaché essentiellement à faire la différence entre catholiques et protestants parce que c'était les deux confessions qui sont le plus représentées en France. Bien entendu, il offre la nature à cela les orthodoxes, éventuellement les anglicans, et puis on aurait pu ajouter aussi les évangéliques. Mais ici, il s'agit d'abord de ces différences-là sont des différences doctrinales et pas seulement culturelles. Ceci dit, justement, pour aller plus loin que la conférence du professeur Pouilloux, qui s'était surtout attaché aux différences d'ordre culturel, le culturel souligne et accentue les différences, c'est vrai, et il faut en tenir compte, mais les différences sont d'abord doctrinales. On est divisé parce qu'on n'a pas la même doctrine et non pas tout simplement parce que nous avons une histoire différente, parce que nous avons des sensibilités différentes, parce que nous avons des cultures différentes. Ça vient s'ajouter au reste, mais le point de cristallisation de la division, ce sont d'abord des questions doctrinales. La preuve en est, c'est que la réforme, l'époque de la réforme, fourmille de déclarations doctrinales. Des textes comme la confession d'Augsbourg, par exemple, qui est constitutive de l'Église luthérienne jusqu'à aujourd'hui, eh bien, est un texte doctrinal. C'est une confession de foi, donc à caractère doctrinal. Du côté réformé, jusqu'au début du siècle, il y avait l'équivalent de cette confession d'Augsbourg en la confession de foi dite de La Rochelle, donc elle n'a pas été du tout rédigée à La Rochelle. Donc c'était aussi un texte de confession de foi. Alors, aujourd'hui, eh bien, la différence reste encore et malgré tout doctrinale. Il y a eu dans l'œcuménisme deux époques. La première, qui s'est achevée il y a quelque temps, qui vient de s'achever, peut-on dire, a été une époque où l'on a fait l'inventaire du consensus entre les églises. Et les églises qui ont commencé à dialoguer, qui ont commencé à se découvrir les unes les autres, se sont rendues compte qu'elles avaient bien plus en commun qu'elles ne le pensaient. Qu'elles étaient d'accord sur des points qui étaient essentiels et d'une manière beaucoup plus profonde qu'elles ne le croyaient. Et c'est ainsi qu'il y a eu une période qu'on pourrait qualifier d'euphorique dans l'œcuménisme, où on s'est rendu compte qu'on était beaucoup plus proche qu'on ne le pensait. En fait, on s'est rendu compte que sur des points essentiels, on était déjà d'accord, et que parmi les condamnations qui avaient été jetées de part et d'autre au XVIe siècle, il y en avait qui étaient sans objet, qui résultaient essentiellement d'une mauvaise compréhension réciproque que le dialogue œcuménique avait permis de dissiper. Par exemple, la question de la foi et des œuvres, il est certain que d'un point de vue protestant, par exemple, si le salut est un don gratuit de Dieu par la foi, il y a nécessité d'œuvres. Il faut ensuite que celui qui a été ainsi justifié manifeste les œuvres que l'Esprit de Dieu lui donne alors de porter. Et le professeur Birmelet, un peu rapidement à mon sens, pensait que là, il y avait un faux problème, un faux débat qui s'était trouvé ainsi dissipé. Même chose, disait-il, en ce qui concerne l'écriture et l'autorité, et c'est ainsi qu'il soulignait que Vatican II avait rappelé que l'autorité de l'Église était seconde par rapport à la parole de Dieu. Alors moi, j'aurais ajouté qu'elle est seconde par rapport à la parole de Dieu, peut-être, mais que nulle part dans la Bible, il est dit que l'Église a autorité pour aller plus loin que ce qui est écrit. Enfin, ça, c'est autre chose. Donc, disait-il, que reste-t-il aujourd'hui ? Après que l'on ait dégagé ce vaste consensus d'accord entre les Églises, comment se fait-il qu'il n'y ait pas, malgré cela, malgré ce vaste consensus de reconnaissance mutuelle ? Comment se fait-il qu'aujourd'hui on arrive à un blocage alors qu'il y a des divergences dans la compréhension de la foi ? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il reste des questions qui sont ouvertes, qui sont le point de focalisation de nos différences. Alors, on peut faire un catalogue de ces points de divergence. Parmi les principaux, il y a une divergence dans la compréhension du sacrifice, entre guillemets, eucharistique offert par l'Église. Alors, les protestants seraient d'accord sur cette formulation, disant que la Sainte Cène peut être, d'une certaine manière, un sacrifice de reconnaissance offert par l'Église, à condition que ce soit un sacrifice d'action de grâce, dans ce sens que la louange du peuple de Dieu, comme le dit l'apôtre Paul dans une de ses épîtres, est un sacrifice, et l'image d'un sacrifice d'action de grâce. Bien sûr, ça, nous sommes ici dans une vision minimale des choses, ça les catholiques ne peuvent pas l'accepter. Pour les catholiques, si l'on parle de sacrifice d'action de grâce, c'est un sacrifice d'action de grâce bien réel que celui de la messe. Et là, donc, il y a différence. Là, il y a désaccord sur ce point-là qui, de part et d'autre, est considéré comme différence séparatrice. Alors, il y a cette idée que l'Église est présente avec et par le Christ dans un sacrifice recréé et qui est offert au Père dans la théologie catholique. Et à cela, les protestants répondent, l'Église est-elle réellement le sujet d'une action de salut, d'un acte de salut ? Est-ce qu'en agissant de cette manière-là, l'Église n'usurpe pas le rôle de Christ. Christ est sauveur. Et dans quelle mesure, en renouvelant le sacrifice de Christ, l'Église ne devient-elle pas, elle, sauveur, à la place du Christ ? Voilà la question que les protestants posent aujourd'hui aux catholiques dans cette question, dans ce problème-là. Même chose en ce qui concerne la notion catholique du ministère ordonné, où le ministre, c'est-à-dire le prêtre, coopère avec Dieu au salut des hommes. Là aussi, n'y a-t-il pas usurpation du rôle de Christ ? N'y a-t-il pas usurpation du rôle du Saint-Esprit ? Est-ce que c'est l'Église qui doit coopérer au salut des hommes, ou bien est-ce que c'est le Saint-Esprit qui le fait ? Jamais, pour le protestantisme, l'Église ne pourra être le sujet d'un agir salvifique avec Dieu. Jamais. Pour le catholicisme, au contraire, l'Église participe par l'intermédiaire des prêtres, au sacerdoce du Christ. Ça, c'est inacceptable. Deuxième point, l'Écriture sainte et le magistère, nous en parlons il y a un instant. Quel est le rôle de l'Église pour dire ce qui est parole de Dieu dans la Bible ? Et là, C'est un débat qui nous touche de très près parce que, automatiquement, c'est tout le problème de l'inspiration de l'écriture qui se pose. Est-ce que l'écriture se suffit à elle-même pour asseoir son autorité? Ou est-ce qu'il faut que l'autorité de l'écriture soit confirmée par l'autorité de l'Église? Est-ce que c'est l'écriture qui fonde l'autorité de l'Église? Ou bien est-ce que c'est l'autorité de l'Église qui fonde l'autorité de l'écriture? Vous comprenez ça? Alors ici, c'est un point essentiel. Et il s'agit ici d'une loyauté à cet évangile et d'un engagement pour la vérité. Et comme le notait le professeur Burmelet, en fait, sous cette question de la manière dont l'Église coopère au salut des hommes, c'est le vieux débat de la foi des hommes qui apparaît. Le salut de Dieu est-il affaire de grâce seule, c'est-à-dire où Dieu seul agit, ou bien est-il aussi l'objet des œuvres de l'Église? Selon que l'on répond à cette question, on se situe dans le protestantisme, dans le catholicisme. Le catholicisme dit, pour sauver les hommes, Dieu a besoin des œuvres de l'Église. Le protestantisme dit, pour le salut des hommes, Dieu se suffit à lui seul. Le salut qu'il leur donne est uniquement son œuvre à lui. Alors, en fin de compte, on voit que ce n'est pas du tout une différence minime. C'est finalement ce sur quoi l'Église s'est divisée au XVIe siècle. Justement, cette question de la foi ou des œuvres, du salut par la foi ou de la foi, ou du salut par la foi et les œuvres. Alors évidemment, c'est ici la question centrale. Il ne saurait y avoir d'autres sources de salut que Dieu. Pour les catholiques, si on n'admet pas que l'Église a une œuvre dans le salut des hommes, alors, eh bien, l'Église se trouve dévaluée. Il y a, disent-ils, une incompréhension de la réalité de l'Église. On oppose alors l'action de Dieu à l'action de l'Église. C'est pourquoi actuellement l'œcuménisme est dans la place. Alors, comment dépasser ce point de focalisation, disait le professeur Birmelet? Eh bien, il faut, dit-il, une triple démarche. La première, cerner la différence avec le plus de précision possible. Et c'est pourquoi les protestants se doivent de rappeler aux catholiques que leur démarche comporte le risque que l'Église devienne indépendante à côté de Dieu, indépendante dans son action. Et que la contribution de l'Église au salut se substitue en fait à l'action de Dieu lui-même. Et le professeur Burmelet disait maintenant, il faut que les catholiques nous disent, eux, comment ils voient le problème. Deuxième point, il faut dresser un catalogue des vérités, une hiérarchie des vérités. Dire quelles sont les vérités qui sont premières et les vérités qui sont secondes. Parce que nous n'avons pas les mêmes priorités dans ce domaine. Nous n'avons pas la même hiérarchie de vérités, et c'est pourquoi il faut justement faire cet inventaire-là. Troisième point, il faut une dissociation entre le consensus et les différences séparatrices. Et il faudrait, disait-il, qu'il y ait une reconnaissance de l'autre, une reconnaissance que la confession de la foi de l'autre est une expression différente de ma propre foi. Et ceci sans que je sois amené à renoncer à ma propre confession de foi, mais tout en reconnaissant la légitimité de la confession de foi de l'autre. Alors, il y a là un certain nombre de choses tout à fait intéressantes à analyser pour nous. D'abord, la première remarque que je ferai, c'est que c'est une analyse très lucide de l'impasse dans laquelle l'œcuménisme se trouve aujourd'hui. Je crois que c'est admirablement analysé et admirablement vu que ce point de cristallisation, de focalisation du problème, qui est justement le rôle de l'Église dans le salut de l'homme. Je crois qu'effectivement, toutes les différences partent de là. Maintenant, pour ce qui est évidemment des solutions qu'il propose, eh bien c'est là justement qu'on peut discuter. D'abord, une démarche du type de celle que propose le professeur Birmelet a peu de chances d'être acceptée du côté catholique, car encore une fois, il faudrait à ce moment-là que l'Église catholique cesse d'être catholique, et si elle acceptait la triple démarche qui est proposée, eh bien, elle ne deviendrait plus qu'une Église protestante parmi d'autres. Donc, elle perdrait son caractère. Donc, il y a peu de chances que cela réussisse. Alors, qu'on soit amené à cerner les différences avec le plus de précision possible, d'accord. Qu'on soit amené à faire une hiérarchie des vérités, dire ce qui est premier, ce qui est second, ce qui est différence séparatrice, ce qui est différence légitime, et ce, moi j'ajouterai une troisième catégorie, ce qui est différence acceptable tout en n'étant pas légitime, oui. Mais c'est là le troisième point qui fait problème. Qu'à partir de là, je reconnaisse dans la confession de foi de l'autre, différente de la mienne, une autre manière de confesser ma propre foi, non, sûrement pas. Parce que à ce moment-là, on entre à fond dans la démarche du bel. On entre dans une relativisation complète, qui, dans les milieux protestants historiques, est légitime parce que la plupart d'entre eux ont une foi biblique très très réduite et restreinte. À partir du moment où on a une foi biblique, on va faire ce catalogue des vérités en fonction de ce que dit la Bible. Il y a certes, au travers de la Bible, des vérités qui sont premières et sur lesquelles il y a automatiquement des différences qui sont des différences séparatrices, la divinité de Jésus, la Trinité, donc automatiquement avec des témoins de Jéhovah, avec des gens qui ne confessent pas Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur, la communion n'est pas possible. Il y a les grandes définitions du salut, salut par grâce, autorité de l'Écriture sainte, il ne peut y avoir aucune accommodation avec ces vérités-là, parce que c'est l'essence même de l'Évangile qui est en jeu. Ensuite, il y a les différences qui sont légitimes, dans ce qui concerne la structure de l'Église, la constitution de l'Église, système congrégationaliste, système presbytérien synodal, système épiscopal à la limite, pourquoi pas. Dans la mesure où, à partir de là, l'Évangile est prêché fidèlement, pourquoi pas. Et puis il y a ensuite ce qui est tolérable, mais ce qui n'est pas légitime. Encore une fois, cette question du baptême, par exemple. La question qu'on évoquait tout à l'heure des ministères. Seulement qu'on ne nous oblige pas, à partir de là, à considérer comme valable ce qui ne l'est pas, ce qui est tolérable. Qu'on ne nous oblige pas à considérer comme légitime le baptême des enfants. Qu'on ne nous oblige pas à considérer comme légitime la structure épiscopale de l'Église. Qu'on ne nous oblige pas à accepter comme normative les ministères ordonnés tels qu'ils sont conçus, ou bien au contraire, les ministères tels que le conçoit l'Église réformée, c'est-à-dire, finalement, tout le monde peut tout faire. Alors, voyez-vous, dans ce débat, nous autres, nous situons d'une manière qui est quand même un petit peu différente. Et la solution biblique est claire dans toutes ces choses. Eh bien, ce n'est pas de changer les structures des églises. Si c'est pour moi, tu dis qu'on rappelle dans une demi-heure. Donc, ce n'est pas de changer la structure des églises. C'est impossible. mais c'est que du sein de toutes les églises, des hommes se lèvent, des hommes et des femmes, qui auront soif de Dieu, qui voudront marcher avec Dieu, qui feront l'expérience de l'Esprit Saint, et qui, en restant éventuellement dans leurs églises, en restant ce qu'ils sont, eh bien, vivent ensemble. Travaillent ensemble, prient ensemble, se respectent dans leurs différences, encore une fois, légitimes ou tolérables, et puis ensemble, soient à la recherche de la vérité, conduits dans toute la vérité par le Seigneur. Il ne s'agit pas de briser les barrières des dénominations, mais de les transcender. Je ne sais pas si vous voyez la différence. D'aller au-dessus, voyez-vous ? Parce que si on essaie de briser les barrières, automatiquement c'est humain, et ça ne se fera jamais. Mais si on s'élève, on prend de la hauteur, si je veux dire, au-delà de ces barrières-là, il vient un temps où on vole plus haut que les barrières, et là, eh bien, il y a la rencontre qui se fait. Alors évidemment, c'était ce qui avait commencé à se faire au début du réveil charismatique. Et le réveil charismatique, c'était tout à fait ça. Je me souviens, dans les premières années, ça remonte à plus de 15 ans de cela, nous avions été amenés à mettre en œuvre cette vision. D'abord, entre baptistes et pentecôtistes, j'étais baptiste à l'époque, et chez les baptistes, il y avait déjà des gens qui avaient fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit depuis la guerre, pratiquement. Mais baptistes et pentecôtistes ne se voyaient pas, ne se regardaient pas, ne travaillaient pas ensemble, se combattaient, parce qu'ils n'avaient pas la même étiquette. Je me souviens d'un pasteur pentecôtiste qui était venu voir un jour mon oncle, Jules Taubois, pour lui interdire de prier pour les malades, parce qu'il n'était pas pentecôtiste. Ça vous fait rire, mais c'était comme ça. Et quand j'étais arrivé dans le Nord, eh bien c'était encore l'état d'esprit qui régnait entre baptiste et pentecôtiste. Et c'est alors que j'avais rencontré Yvon Charme, qui était pentecôtiste, et moi baptiste. Et bien que, étant d'une étiquette différente, nous avions décidé de travailler ensemble, et il était venu, lui, le pentecôtiste, faire une série d'études bibliques pour les pasteurs baptistes du Nord, puis ensuite, il avait rassemblé à Carré ces mêmes pasteurs qu'il avait rencontrés dans le Nord, donc baptistes, avec des pasteurs pentecôtistes. Alors on était arrivé là-bas, on était un petit peu inquiet, on disait qu'est-ce que ça va donner, est-ce qu'il ne va pas y avoir un cocktail un peu détonnant. Mais par la grâce du Seigneur, eh bien, on est passé au-dessus des barrières. Vous allez me dire, c'était facile parce que la barrière n'était pas très haute, en fin de compte. Elle était plus culturelle et passionnelle qu'autre chose, donc là c'était facile à surmonter. Puis ensuite il y avait eu des réformés. Alors là c'était déjà différent. Et j'ai raconté, je crois, hier, l'histoire de ce pasteur réformé, ce vieux pasteur réformé qui avait été baptisé par immersion, dans les circonstances que j'évoquais hier, et puis qui, tellement heureux de cette découverte qu'il avait faite, l'avait proclamé autour de lui, avait écrit ça dans tous les journaux réformés, etc. Heureusement pour lui qu'il était en fin de carrière, sinon ça aurait pu mal tourner. Puis ensuite il y avait eu Schinkel, le frère Schinkel, que certains d'entre vous connaissent, qui lui aussi avait été baptisé, était pasteur réformé à l'époque. Il y avait eu d'autres, Ramseger et d'autres encore, qui étaient venus et qui avaient été baptisés par immersion, baptisés du Saint-Esprit ensuite, et qui étaient restés dans les églises en tant que réformés. Et je me souviens, dans le Nord, à l'époque où j'étais, alors il y avait une communion formidable entre baptistes, pentecôtistes et réformés. On se rencontrait pour prier ensemble, on faisait des campagnes d'évangélisation ensemble, on travaillait ensemble, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis à ce moment-là aussi, des catholiques avaient commencé à venir. J'étais très étonné un jour de voir arriver des pères maristes en plus de ça, c'était pas n'importe qui. Puis il y en avait un d'entre eux qui était un académicien de haut vol, ou un polytechnicien par rapport, avec un nom en particulier, l'abbé de la mode de Saint-Pierre, et tout ça. Et c'est pareil, c'était des gens qui avaient faim et soif des choses de Dieu. Faim et soif des choses du Saint-Esprit. Et puis ensuite, vous savez, le père Régimbal était venu à Carré, ce moine trinitaire qui était baptisé du Saint-Esprit, qui a fait des expériences extraordinaires dans la présence de Dieu, c'est ce à lui je faisais allusion hier. Lui croyait que le seul baptême véritable était le baptême des adultes, etc. Et puis à partir de là, d'autres catholiques s'étaient joints. C'était particulièrement des jeunes. Des jeunes qui étaient sans a priori. Et là, on avait des séminaires pastoraux qui étaient vraiment d'une très très haute teneur. Chacun était ce qu'il était, c'est-à-dire pentecôtiste, ou baptiste, ou réformé, ou catholique, etc. Alors, dans les réunions de prière, dans les moments de prière, alors soudain, il y avait un réformé qui se mettait à parler en langue, et puis il était interprété par un catholique, et puis ensuite, un pentecôtiste apportait une prophétie, et puis un baptiste, une parole de sagesse, etc. On ne pouvait plus dire, pour un observateur superficiel, qui était qui. Et puis, c'est pour lui, alors, là, évidemment, la réaction des appareils des églises, toujours pareil. Les appareils sont intervenus pour récupérer leur monde, parce qu'il faudrait que ça les prenne. Et tout cela, et bien tout cela à côté, pour voir les choses. Alors, bien sûr, Dieu n'a pas dit dans son dernier mot dans toute affaire. Et malgré justement ces récupérations, malgré ces coups de crosse des appareils d'église qui ne fonctionnent qu'en termes de ce que nous avons aujourd'hui, de structure, etc., eh bien, viendra un temps, je suis persuadé, où Dieu reprendra son œuvre de cette manière-là, après peut-être bien des vicissitudes de la part de ses frères qui auront voulu finalement ménager la chaîne et la chute. Donc voilà, si vous voulez, où en est aujourd'hui cette évolution de l'œcuménisme. Peut-être que il reste des feuilles comme celle-là, je ne sais pas, Rémi. Est-ce que tout le monde en a eu les conclusions de Chantilly? Je vais vous les lire si vous voulez. Le texte qui a été. Enfin, ça résume en gros ce que j'ai dit ce soir. Au moment où certains s'accordent à dire que l'œcuménisme connaît aujourd'hui une période de crise, il importe de nous interroger sur la réalité et les causes possibles de ce phénomène. Notre recherche de l'unité et notre aspiration à l'unité réclament une meilleure compréhension des convictions profondes qui ont marqué la tradition des Églises. Réfléchir sur nos différences ecclésiales, c'est aussi montrer des voies possibles en vue d'une reconnaissance réciproque plus authentique. C'est toujours le mot reconnaissance réciproque. Or, n'est-ce pas, on reste statique. C'est ça le problème. On reste statique. Et puis, il s'agit d'aller vers l'autre dans la situation où il est, étant entendu que personne ne veut bouger de ses positions. Alors que le mouvement de l'esprit est autre. C'est ensemble se mettre en marche de là où on est, mais se mettre en marche vers le même but, vers le Christ. Alors automatiquement, on peut partir de très loin les uns des autres. Mais si on continue à marcher, on finira par se retrouver au but. Voyez-vous, c'est ça la grande différence. Tandis que là, on veut tout de suite, n'est-ce pas, faire ce mouvement-là, au lieu de faire le mouvement qui va vers le point commun qu'il faut chercher. Alors évidemment, il y en a qui sont plus près que d'autres. Il est certain que les charismatiques, ceux qui croient à la parole de Dieu, à son inspiration, etc., sont beaucoup plus près que les catholiques. Mais ça ne veut pas dire que charismatiques, évangéliques, etc., nous n'ayons pas un certain nombre de choses encore à redécouvrir. On parlait tout à l'heure des ministères. Bon, ben, voilà certainement quelque chose qui est à redécouvrir. Bon, la vision communautaire, c'est aussi quelque chose qui, manifestement, est à redécouvrir dans les églises évangéliques. Alors, c'est toujours la marche vers l'avant. Mais justement, le problème de l'homme, c'est que l'homme est ainsi fait, l'homme religieux en particulier, qui est un des pires, si j'ose dire, un des pires qui soit, mais ça vous... C'est l'évangile, c'est les pharisiens, c'est les... Qui a tué Jésus? Les gens religieux. Et pourquoi? Parce qu'ils remettaient en cause le système. Il vaut mieux qu'un homme périsse, dit Caïphe, en bon politique religieux qu'il est, et que, eh bien, notre autorité ne soit pas contestée, que... Le statu quo ne soit pas bouleversé, donc il faut qu'il disparaisse au nom de la raison d'Église. Et les persécutions dans l'histoire n'ont jamais eu d'autre raison que celle-là. Alors donc ici, une reconnaissance réciproque. Mais cette reconnaissance réciproque n'est pas possible d'un point de vue dynamique. Il est possible de reconnaître dans l'autre quelqu'un qui se met en marche vers le même but. quelqu'un qui se tourne vers Jésus-Christ et qui, se faisant, devient un frère. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, comme on disait hier, que même les expériences du Saint-Esprit authentifient tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, au point de vue doctrinal, au point de vue comportement, au point de vue ecclésiologie. Ça n'a rien à voir. Et ce n'est pas parce que quelqu'un aura une ecclésiologie, un comportement que le Seigneur, qui n'est pas conforme à ce que la parole de Dieu dit, qu'on ne va pas accepter cet autre-là comme un frère, s'il a le désir de s'ouvrir à l'action de Dieu. Mais tout est là. Tout est dans l'attitude intérieure. Donc ce n'est pas une question d'appareil d'église, ce n'est pas une question de structure, c'est une question d'individu, c'est une question de cœur. C'est tout. Et on n'a pas des communions avec des églises, on a communion avec des individus qui sont les églises. Au-delà de ce qu'est leur étiquette religieuse. Mais à partir du moment où quelqu'un se bloque, où quelqu'un se fige, en disant « je ne veux pas aller par là » parce que c'est un risque, c'est l'aventure de la foi. C'est Abraham, c'est le quitte, va-t'en. Quitte ton pays, la maison de ton père. Et c'est toujours terrible de quitter son pays, la maison de son père. D'une certaine manière, Dieu dit, bien, quitte ton église, quitte ta tradition, quitte éventuellement tes frères qui ne veulent pas marcher avec toi, et va vers le pays que je te montrerai. Et ça, vous savez, il y en a peu qui le font. Tout ça, on s'est rendu compte avec le temps. Ou il y en a qui partent comme Lot, qui partent, qui font quelque part dans la direction, puis quand ça devient trop mouvant, trop dangereux, eh bien, revient en arrière. C'est le cas du frère dont je parlais hier soir et de bien d'autres. Alors, c'est ça la question, c'est ça le problème de l'Église. C'est ainsi que se pose le problème de l'unité. Or, justement, à partir du moment où il y a appareil d'Église qui tente des synthèses, des fusions, des reconnaissances réciproques, eh bien, il n'y a pas de problème. C'est parce que à la base, il y a un refus de remise en question. Et s'il y a refus de remise en question, automatiquement, il y aura unité humaine. Et s'il y a unité humaine, ce sera finalement récupéré par l'ennemi. Et c'est l'église de la fin, l'église de l'Antichrist, la grande prostituée qui se met en place. Ça, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, cette grande prostituée, on la voit se mettre en place sous nos yeux par le Bel, qui est un chef-d'œuvre du genre. Et on la voit se mettre en place par maintenant la constitution du conseil chrétien dans différents pays. Conseil chrétien qui feront en sorte que tous ceux qui ne sont pas dans ces conseils chrétiens, eh bien, seront excommuniés d'une certaine manière, des hérétiques, des gens bornés, fermés, étroits, peu fréquentables. Alors, c'est le dilemme, car entrer dans le grand mouvement œcuménique tel qu'il se dessine au travers du Bel, au travers des conseils chrétiens, au travers de la démarche qui est définie ici à Chantilly, eh bien, c'est automatiquement se lier, apostasier, relier le Christ, relier l'Évangile, et par conséquent entrer dans l'Église de l'Antichrist. Ne pas le faire, aux yeux des hommes, c'est se marginaliser. Donc, entre les deux positions, la marge de manœuvre est très étroite. Dieu a permis qu'en ce qui nous concerne, eh bien, on ne fasse ni l'une ni l'autre jusque maintenant. Pourrons-nous le faire encore longtemps? Je ne sais pas. Je crois qu'il faut prier le Seigneur pour que cela soit possible. Parce que pour nous, ce n'est pas une question d'être officiellement reconnu ou pas officiellement reconnu, ça ne nous intéresse pas. Pour nous, la question, c'est de pouvoir rendre témoignage ou pas, d'être aux yeux des hommes, tout à tous, pour pouvoir en sauver de toute manière quelques-uns. C'est ça la question, c'est ça le problème. Et là, actuellement, c'est un moment particulièrement délicat à ce niveau-là, où il faut justement une direction de Dieu très précise. Je finis cette lecture, si vous voulez. Il nous a été montré que nos appartenances confessionnelles pouvaient structurer l'agir de chacun au plan social. L'histoire, la tradition et la mémoire de nos identités interviennent très différemment dans notre esprit, selon que l'on appartient à une confession sociologiquement majoritaire ou minoritaire. Cela permet à notre regard sur l'idée que nous faisons de différence. Bon, ça, c'est le résumé de la conférence de Pouillou. Cependant, les différences doctrinales profondes doivent être soulignées. Pour le protestantisme, la confession de Jésus-Christ comme Fils de Dieu, unique et seul Sauveur, révèle et situe la nature de l'Église. Celle-ci est uniquement l'instrument du Christ qui, par son Église, lui donne de témoigner du salut offert au monde. Par la parole et les sacrements, l'Église accomplit sa mission de témoin du Christ et de son royaume qui vient. La tradition catholique proclame aussi ce fait central et fondateur de la foi chrétienne, mais elle insiste sur la grâce donnée à l'Église d'être par le Christ et dans l'Esprit Saint le sacrement de la médiation du Verbe incarné. Voilà, ça c'est le mot fort. Le sacrement de la médiation du Verbe incarné. Et quand on sait quelle est la théologie du sacrement dans le catholicisme, eh bien on comprend tout ce que ça veut dire. Voilà. Le sacrement opère par lui-même. Il opère, il donne, il confère une grâce par lui-même. Alors autrement dit, l'Église est dépositaire de la grâce de Dieu, dispensatrice de la grâce de Dieu. Elle donne la grâce de Dieu en elle-même. Ça, c'est inacceptable. Il ne s'agit pas de méconnaître ce qui nous sépare encore. Les différences indiquées plus loin éclairent tout l'enjeu de la communion ecclésiale visible, pleinement reconnue entre nos églises. Comment éviter que leur dimension séparatrice se neutralise dans leur richesse unificatrice? Nous savons maintenant que le chemin de notre réconciliation plénière passe entre deux écueils. Celui d'une uniformité fusionnelle, évacuant les différences, celui d'un durcissement des différences, les maintenant dans une opposition stérile et visible. Les chrétiens dans la communion de leurs églises choisiront entre ce qui ouvre véritablement au don d'unité et ce qui enferme dans certaines formes d'exclusivisme doctrinaux et institutionnels qui menacent toutes nos églises. Cela nous autorise à demander fermement que la vie de nos églises locales fasse apparaître concrètement dès aujourd'hui un meilleur vivre ensemble des chrétiens dans le respect des diversités légitimes. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Ces plages d'unité et de réconciliation existent déjà entre nos communautés ecclésiales. Cette réalité nous engage à entrer dans une communion plus grande, plus dynamique, orientée vers l'avènement du Christ. L'Église ne vit pas pour elle-même et les signes du royaume, interpellée par les églises du tiers-monde, confrontée à des idéologies, bien sûr, l'inévitable couplet politico, etc., et des analyses sociopolitiques et des mondes culturels divers, nous éprouvons ces difficultés à vivre dans le royaume sans être du monde. Mais dans la perspective du royaume, cette difficulté est un défi qui stimule notre commune espérance. En effet, notre mission nous conduit à vivre dans une solidarité communautaire avec tous les hommes de notre temps, particulièrement le monde des pauvres et des opprimés, en démasquant les idoles modernes qui menacent de nous asservir. Dans cette perspective, tous nous nous sentons appelés à exprimer une meilleure catholicité de l'Église. Ça, c'est les conseils chrétiens. Vous voyez, c'est les conseils chrétiens qui répondent à ce point-là. Nous tous, nous avons une vocation de protester au nom de notre foi devant les réalités destructrices de l'humanité de notre temps. Tous, nous devons vérifier constamment l'orthodoxie de cette même foi. Alors, ça veut dire en clair qu'on n'est pas d'accord sur la doctrine, mais au moins, on peut être d'accord pour agir ensemble dans le domaine social et politique. Alors, les conseils chrétiens vont avoir pour but, justement, de faire cette unité dans la pratique. Vous voyez ? Et par là, bien, automatiquement... On espère qu'on arrivera à une unité dans la doctrine. Serviteurs de l'unité dans la grâce du mouvement œcuménique accordé à notre temps, nous demandons au Seigneur d'avancer. Libérer de l'attitude de possesseur exclusif de la vérité, engendrant le mépris et le rejet des autres. Renouveler dans la joie de pécheurs pardonnés, un peu témoin du royaume de Dieu, offert à tous les hommes et que nous avons proclamé ensemble. La réconciliation entre nos églises est vitale pour le témoignage que le Seigneur attend de nous afin que le monde croit, affronter une mission qui dépasse les forces humaines appuyées sur la prière de Jésus, portée par l'Esprit du ressuscité, nous sentons appelés de mieux rejoindre celui qui nous précède sur la route de l'unité des chrétiens. Reconnaître cela, c'est accueillir nos différences sans complexe ni complaisance, en espérant une purification capable de les transfigurer. Voilà. Alors au niveau des catholiques, qu'est-ce qu'ils ont rajouté des catholiques? Ça n'a pas grand-chose en fin de compte. Oui, on va lui dire en gros ce que disait Gémolet. Voilà, en gros, si vous voulez, ce qu'il dit de la place de l'Église dans une perspective catholique. L'Église appartient au salut, elle exerce une causalité instrumentale, bien qu'informée par la causalité principale. C'est beau tout ça. Le salut est une réalité qui participe à l'essence de l'Église. L'Église est sujet d'un agir sanctifiant. Elle est le sacrement fondé. Le sacrement, car cela doit être visualisé et non pas se substituer à. Elle est res, et la différence entre le res et le sacramentum, tout à l'heure, leur galimatia un petit peu de proximité.
C'est la vie, quoi.
Ouais, sur ma vie de façon. Comment ?
Ouais.
Bon, ça veut dire en clair que l'Église est distributrice des grâces, c'est tout. Hein. Qu'on ne peut être sauvé qu'en passant par l'Église. Comment ? Ah oui, bien. Bien, est-ce que vous avez une ou deux questions à poser là-dessus ?
Vous disiez là pour le mouvement charismatique,
il y avait bien commencé un peu comme ça, après. Mais avec l'Église catholique, c'est sûr que c'était aussi. Je veux dire qu'il y avait un problème quand même, peut-être pas il y a son mental, mais il y avait quand même une grosse difficulté par rapport aux Églises.
C'est dans ça que je disais qu'il partait beaucoup plus loin.
Ouais, c'est ça.
Et là, automatiquement, il fallait. Il y a un phénomène intéressant qui joue actuellement au niveau du mouvement charismatique catholique, c'est qu'il est de plus en plus marginal dans l'Église catholique. De plus en plus, des voix s'élèvent au niveau des évêques ou des officiels, etc., pour dire bah, les charismatiques, c'est des gens, des rigolos, etc., des gens qui dérangent. J'entendais quelqu'un qui disait ça.
Oui, c'est génial.
Ouais. Alors, je me demande si, en fin de compte, la prophétie de Wilkerson, qui avait tant été combattu en son temps quand il avait donné qui parler d'une persécution par l'Église catholique des charismatiques catholiques, finalement, est si loin que ça de s'accomplir. Et là, peut-être qu'effectivement, acculé, certains ne comprennent pas. C'est possible. C'est possible. C'est intéressant de voir. Jusque maintenant, les charismatiques catholiques qui se sont fait taper sur les doigts d'une manière terrible. Nous, on a vu ça très très nettement, parce que je vous disais tout à l'heure, quand on a, au début, il y avait des jeunes catholiques, là, la guerre, tout ça, bon, on disait guerre, bah oui, c'est un.